Merci Hervé Gardette, on vous retrouve à 9h pour le prochain journal. Dans quelques minutes, suite de notre entretien avec notre invité aujourd'hui, Percy Kemp, mais tout de suite par téléphone. Une chronique dialoguée ce matin, Alexandre Adler, sur les attentats de Londres. Première analyse, premiers éléments, Alexandre.
Oui, alors les premiers éléments, c'est que le modus operandi est évidemment celui d'Al-Qaïda. Il y a une très grande similitude entre les attentats de Madrid et ceux de Londres. Et il y a évidemment un contexte qui se prête parfaitement, puisque on sait que Oussama Ben Laden est un maître de la mise en scène. Et quel meilleur jour pour frapper l'Angleterre, qui est depuis fort longtemps une cible d'Al-Qaïda, que l'ouverture du G8, qui semblait, avec les autres succès de politique étrangère de Tony Blair, marquer une sorte de triomphe britannique. Maintenant, le triomphe britannique est strié de sang et de larmes, et donc c'était cela l'objectif, il a été atteint. Maintenant, il y a quand même peut-être une autre remarque à faire, c'est que les méthodes utilisées pour l'attentat de Londres, et j'en présenterai presque mes excuses par avance aux familles, le bilan en nombre de morts n'est pas tout à fait comparable aux opérations habituelles d'Al-Qaïda. Et là, on sent bien qu'il y a eu quelque chose qui a été émoussé dans la capacité de cet organisme terroriste international de coordonner et de frapper avec, disons, un grand arrière moyen-oriental. C'est ce grand arrière qui manque et qui explique l'utilisation de bombes de faible portée, qui explique aussi l'utilisation d'un kamikaze probable dans l'affaire de l'autobus, et surtout la dispersion des cibles dans des stations de métro dont certaines étaient en plein air, et on n'a pas fait le nombre maximal de morts. Si vous voulez, une opération qui aurait été menée à l'ancienne aurait probablement, malheureusement, causé le décès de 300 à 500 personnes. Nous sommes autour de 60, c'est beaucoup, bien sûr.
Alexandre, un mot sur Al-Qaïda. Hervé Gardette, dans son journal, parlait d'un mouvement franchisé, d'un label. Comment le décrire exactement, d'après vous?
Si vous voulez, avant le 11 septembre 2001, Al-Qaïda pouvait faire absolument tout ce qui lui plaisait, tapis dans son refuge afghan. Avec tout simplement des ordinateurs, on transférait des sommes importantes à des groupes terroristes qui étaient très éloignés, de même que on envoyait des émissaires, on pouvait aussi utiliser les portables à peu près librement. Donc, on peut dire que Oussama Ben Laden et ses amis surfaient sur la mondialisation. Ce qui n'est finalement pas étonnant d'un milliardaire saoudien qui est au cœur du système mondial d'aujourd'hui. Simplement, les moyens qui ont été donnés pour les banques, les instruments financiers, servaient là au terrorisme. C'est précisément ce qui a été atteint en profondeur. Aujourd'hui, on le sait, Al-Qaïda envoie des émissaires qui ne peuvent donner que des consignes de bouche à oreille. Tous les portables ont été éteints, les transferts de fonds sont devenus rigoureusement impossibles petit à petit, à mesure que les contrôles bancaires augmentaient. Donc c'est de l'argent en liquide qui voyage avec des mallettes, en utilisant les ressources des mafias, de la drogue, d'effets divers, dont celle de Bombay, traditionnellement liée au service secret pakistanais. Voilà des choses qui, effectivement, ralentissent énormément la centralisation. Donc, à cette offensive, qui est constante des services secrets occidentaux, Al-Qaïda a répondu en donnant une beaucoup plus grande autonomie à ces groupes. C'est désormais eux qui planifient, c'est eux qui agissent, c'est eux qui, à part peut-être la date qui a dû être choisie de conserve, ont l'initiative des opérations. Il en résulte une situation un peu différente. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui certainement des attentats moins professionnels, moins meurtriers par conséquent dans l'immédiat, mais nous avons aussi une métastase, car la multiplication de ces petits groupes décentralisés signifie également une extension des cibles d'Al-Qaïda. Donc, si vous voulez, ce qu'on perd en intensité, on espère le gagner en surface.
Un mot sur Londres, Alexandre Adler. Londres sanctuaire, Londres et sa politique d'accueil extrêmement généreuse jusqu'aux attentats du 11 septembre concernant les réfugiés politiques, le londonistan dont on parle également. Comment analyser cette dimension-là de la vie londonienne?
Alors, vous avez tout de suite dit le mot-clé avant le 11 septembre. Il faut signaler quand même que depuis le 11 septembre, les services secrets britanniques, essentiellement le MI5, l'équivalent de notre DST et la Special Branch de Scotland Yard, ont marqué beaucoup de points dans la poursuite du terrorisme. Auparavant, c'était une autre affaire. Alors voilà, en fait, le londonistan s'explique par la combinaison de trois facteurs. Le premier, c'est les conceptions traditionnelles britanniques en matière de liberté publique, qui font que on ne fait pas obstacle à la liberté d'expression, même lorsque celle-ci est extrêmement dérangeante, Et c'est véritablement un élément que, bien entendu, tous les cyniques accueilleront ricanant, mais qui est incontestable dans la politique britannique et qui a déjà eu d'autres exemples, par exemple les néo-nazis. Deuxièmement, il y a les liens traditionnels que les services secrets britanniques entretiennent avec les services secrets pakistanais. Cela remonte finalement à la partition de l'Inde et au fait que le Pakistan a tout de suite choisi le camp occidental lorsque Nehru était non aligné et assez vite pro-soviétique. Donc en fait, les liens entre les Pakistanais et les Britanniques à travers leurs services secrets ont donné une immunité, mais aussi un moyen de surveillance, puisque les Pakistanais jouaient un double jeu dans cette affaire, qui a longtemps été, aux yeux des Britanniques, le meilleur garant de la sécurité du pays. Le troisième point, c'est que Londres est la capitale d'été ou d'hiver, selon les moments, de l'aristocratie saoudienne et de l'ensemble des pétrodollars. Ce n'est pas New York, qui est un peu inhospitalière, trop juive, c'est Londres. À Londres, vous trouvez absolument les meilleurs journaux de langue arabe dans le monde, vous trouvez beaucoup d'intellectuels, vous trouvez beaucoup de libéraux arabes, il faut quand même le dire. Le Londonistan n'est pas tout unanimement islamiste. Mais évidemment, il y a aussi cette frange. Et les Anglais s'en sont servis, par exemple, contre l'Algérie, un peu contre la France, en refusant d'extrader l'auteur de l'attentat, l'instigateur de l'attentat contre le métro Saint-Michel, par exemple. Mais tout cela est fini depuis 2001. Désormais, les services britanniques coopèrent activement avec les services français. Et c'est par exemple ainsi qu'a été évitée une attaque chimique contre le métro de Londres lorsque un groupe de terroristes d'origine algérienne ont été interceptés à Manchester. Un policier a d'ailleurs été poignardé par l'un des auteurs. Ils étaient en train de fabriquer une bombe élémentaire avec l'aide du ricin.
Alexandre Adler, comment inscrire un attentat de ce type dans un contexte géopolitique beaucoup plus large? Je pense évidemment à l'Irak, au Moyen-Orient. Quelle relation voyez-vous entre ces deux espaces géopolitiques?
La relation est permanente, c'est-à-dire que nous avons un bras de fer très difficile qu'Al-Qaïda a entamé en Irak en espérant prendre la direction du djihad, et notamment de la prendre des mains des restes des services spéciaux du Baas, de Saddam Hussein, qui sont de plus en plus découragés et qui, eux, envisagent de plus en plus de déposer les armes, poussés en cela par des incitations saoudiennes et même maintenant syriennes, depuis que Bachar Assad, menacé à l'intérieur de son propre pays, a choisi de fermer progressivement la porte du djihad, qui était largement ouverte en Syrie vers l'Irak, et de coopérer avec Saoudiens et Américains pour l'extinction de cette guérilla irakienne. Donc Zarqawi et ses amis risquent de se trouver un peu seuls si les baassistes commencent à se rallier. Il y a des négociations secrètes, en Turquie notamment, qui sont prêtes d'aboutir. Alors c'était le moment pour Al-Qaïda de rappeler qu'elle est là. Et c'était le moment, par un coup de bluff, de montrer qu'Al-Qaïda est encore capable d'influer sur le comportement des Européens vis-à-vis de leur position irakienne. C'est donc une réédition en modèle réduit, malgré tout, de ce qui a été fait à Madrid et fait avec succès. Vous me permettrez de dire, sans polémique aucune, que le gouvernement britannique n'est pas un gouvernement espagnol en fin de course et que l'opinion britannique n'est pas l'opinion espagnole et que, bien entendu, cette attaque contre Londres, qui rappelle à tous les Londoniens, petits et grands, ce qu'ils ont subi avec les V1 et les V2 de la part des nazis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ne va faire que renforcer leur volonté d'en découdre et d'être présent aux côtés des Américains en Irak, de même que Tony Blair n'a pas du tout à craindre l'impopularité qui a pu frapper en pleine campagne électorale, il est vrai, José María Aznar. On remarquera aussi que jamais les Anglais n'ont envisagé, ni de près ni de loin, une piste irlandaise qui manquerait totalement de sérieux.
Une dernière question, Alexandre Adler, sur le domaine du G8, le G8 qui travaille sur la question de la pauvreté à échelle mondiale, avec aussi cette idée qu'on trouve dans les propos des dirigeants internationaux, que c'est en traitant la pauvreté sur place, dans les pays où elle est très forte, qu'on peut essayer aussi d'avoir un traitement politique du terrorisme, en coupant l'herbe sous le pied, en quelque sorte, au camp candidat futur à ce type d'action. Notre invité Persikem disait tout à l'heure que ce sont les classes moyennes, au contraire, qu'on retrouve très souvent dans les mouvements de terrorisme international. Alors, pauvreté et terrorisme à base sociale ou classe moyenne?
Eh bien, je vous remercie beaucoup de cette question, Nicolas, parce que je trouve cette idée de la mise en parallèle du terrorisme et de la pauvreté particulièrement pauvre et peu éclairante. pour parler poliment, comme on doit le faire à l'antenne. En réalité, si le terrorisme était lié à la pauvreté, nous aurions un vaste terrorisme africain. Or, il n'y a pas le moindre terrorisme en provenance d'Afrique. Il a fallu de très nombreuses années à l'ANC pour engager des actions armées et très limitées. Et elle a toujours préféré l'action politique. Non, le terrorisme, Percy Kemp a parfaitement raison de le souligner, est le fait de classes moyennes, généralement éduquées. Vous savez que le PIB par tête d'habitant en Arabie Saoudite est environ celui de l'Autriche. Or, tous les pirates du 11 septembre étaient des Saoudiens, généralement plutôt de classe moyenne. Les deux dirigeants les plus importants d'Al-Qaïda sont Osama Ben Laden, lequel est un milliardaire en dollars, et le docteur Ayman Zawahiri, qui possédait la clinique privée la plus importante et la mieux gérée de tout le Caire. Donc ils ne sont pas évidemment touchés par les mesures anti-pauvreté du G8. Que le désespoir dans certains faubourgs du Caire, que la pauvreté rémanente dans le Moyen-Orient constitue un terreau pour la violence, on le sait. Mais les organismes terroristes ne sont absolument pas liés à la pauvreté, mais à la fascisation d'une partie des classes moyennes, après que la fin du nationalisme arabe et la fin de l'alternative apparente que représentait l'Union soviétique. Cette fascisation affecte en priorité les diplômés des universités, les fonctionnaires et les militaires, puisque nous avons plusieurs officiers des services spéciaux égyptiens, par exemple, comme Saif al-Adl, qui est actuellement en résidence surveillée en Iran, qui sont les chevilles ouvrières de cette action.
Merci Alexandre Adler pour tous ces éléments qu'on va soumettre à débat dans quelques minutes dans la dernière partie des Matins de France Culture. On bouscule un tout petit peu le cours normal de l'émission. Merci donc et à lundi pour la suite Alexandre. Il est 8h30 sur France Culture. Dernière étape donc avant de retrouver Percy Kemp. G8 plus et plus, c'est le thème de la chronique d'Olivier Duhamel.
In victory magnanimity. In defeat, defiance, disait Churchill. Dans la victoire de la magnanimité, dans la défaite, relevez le défi. Londres attaquée, Londres agressée, Londres blessée, mais Londres plein de dignité. Aucune panique chez les londoniens, la tête haute chez les gouvernés, chez les gouvernants. Blair, les traits tirés, mais les mots fermes pour son pays, pour l'Europe, pour le monde. Citons-le littéralement. It is important that those engaged in terrorism realize that our determination to defend our values and our way of life is greater than their determination to cause death and destruction to innocent people in a desire to impose extremism in the world. Il est important que ceux qui sont engagés dans la voie terroriste sachent que notre détermination à défendre nos valeurs et notre mode de vie est plus grande que leur détermination à causer la mort et la destruction de personnes innocentes. Dans leur désir d'imposer l'extrémisme à travers le monde. Voilà les mots qui comptent pour tous, que tous peuvent reprendre à leur compte. Voilà pour les attitudes qui en imposent. Le terrorisme de l'islamisme radical ne réussira que s'il terrorise tout le monde. La première réplique consiste donc à ne pas lui concéder cela, à ne pas se laisser terroriser. La deuxième, évidemment, suppose de renforcer prévention, contrôle et vigilance, mais sans sombrer dans la militarisation généralisée de nos sociétés et surtout sans croire que cela puisse suffire. Il faut en effet une troisième réponse qui implique de voir plus loin et d'agir plus profond. Et c'est ici que la gouvernance du monde est en cause, que c'est la gouvernance du monde qu'il faut changer, quantitativement et qualitativement. Quantitativement, il ne suffit pas de réunir une fois l'an les chefs d'État et de gouvernement de 8 grands pays, un G8 par an, sur 2 ou 3 sujets pour engager à l'échelle de la planète les impulsions et les actions politiques qui n'ont plus de sens à un niveau inférieur même continental. Quantitativement, le G8 souffre d'hémiplégie. Les 7 devenus 8, États-Unis et Canada, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Japon et Russie, les 7 devenus 8 du monde ne nous montre une fois encore que la moitié nord. La conscience de cette limite progresse puisque l'on connaît désormais des réunions de ministres des Finances au niveau G8 plus 5. S'y ajoutent donc des pays émergents comme la Chine, l'Inde, le Mexique, le Brésil et l'Afrique du Sud. Mais si cette liste élargie trace une voie, elle reste pourtant toujours affectée d'une béance, aucun État dont la population soit principalement musulmane. Cette exclusion doit cesser. L'Indonésie et ses 240 millions d'habitants devraient être associés à cet embryon de gouvernance mondiale. Le terrorisme islamiste frappe partout, la réplique doit venir de partout. La contestation radicale d'un monde injuste prend des formes extrêmes qui nous révoltent, mais qui trouvent soutiens et raisons chez les oubliés de la Terre. Plus ce terrorisme veut nous fermer, plus nous devons nous ouvrir. Plus il veut opposer les nantis du Nord aux désespérés du Sud, plus nous devons remettre en cause cette ravageuse coupure.
Voilà, c'était la chronique d'Olivier Duhamel et donc dernière partie des Matins de France Culture où l'on retrouve Percy Kemp, notre invité aujourd'hui, spécialiste de questions internationales, mais aussi romancier, roman d'espionnage publié notamment chez Albin Michel. On dit que vous êtes le digne héritier, le fils spirituel de John le Carré, selon la formule consacrée. À mes côtés maintenant pour vous interroger, Marc Kravets qui va vous poser tout de suite une première question.
Oui, et d'ailleurs on va remonter un peu dans l'histoire. Pour tenter d'éclairer un peu ce débat. On sait à chaque fois qu'il y a des attentats, on bavarde, et on n'avance pas beaucoup. Mais vous avez tout de même une expérience très particulière, Percy. Vous êtes, même à votre accent, j'espère que certains de nos auditeurs l'auront reconnu, autant libanais que britannique. Votre costume est tout à fait britannique,
mais mon cœur est libanais.
Et votre cœur est libanais, et cela s'entend. Et précisément, c'est avec le Liban que j'aimerais commencer à vous interroger. Pourquoi ? On l'a dit parfois autour de cette table, le Liban, avec ses quelques 15 années, on va pas rentrer dans les détails, de guerre civile au pluriel, et pas toujours très civile, on l'a souvent qualifié comme une espèce de laboratoire, une sorte de laboratoire monstrueux de tout ce qui s'est passé dans le monde depuis 20 ans. Et c'est au Liban qu'il y a les prises d'otages systématiques, c'est au Liban qu'il y a les premiers kamikazes du 20e siècle, les kamikazes au sens métaphorique, évidemment les kamikazes sont japonais, ils étaient avant. Mais donc des attentats suicides et d'une extrême violence, frappant d'abord des Américains et des Français, et ensuite un peu tout le monde. C'est au Liban que ce terrorisme avec un grand T, avec plein de petits T, pour les terroristes, se déploie à la fois sous forme religieuse et sous forme laïque, mais de façon délibérée, comme si, en effet, tout ça avait été expérimenté là avant de s'exporter. Et pourtant, tout ce qui s'est passé au Liban, en dehors de ce dont ont souffert les Libanais, est passé, je crois pas exagéré, totalement inaperçu du reste du monde. Est-ce que c'est l'une des raisons, si on est tellement démunis par la suite, est-ce que c'est justement parce qu'on n'a jamais voulu regarder de près ce qu'ont été ces guerres libanaises que vous avez fort bien connu et largement vécu.
Percy Kemp.
C'est vrai que le Liban a été, d'une certaine manière, un laboratoire, notamment en ce qui concerne la SAP, c'est-à-dire la capacité de groupe à miner l'autorité d'un État pour installer des extraterritorialités sur son territoire national, qui a été le commencement de beaucoup de dérives, effectivement. Et c'est vrai, vous avez tout à fait raison de dire que on n'a pas assez étudié le cas libanais, c'est-à-dire le cas d'une démocratie avec toutes ses limites, multiculturelle, multiconfessionnelle, qui étrangement ressemble de plus en plus aux sociétés occidentales d'aujourd'hui. Quand je vois Londres, par exemple, et que je vois le Liban, il y a ce qui m'a frappé, par exemple, c'est que le comité olympique britannique qui est allé à Singapour a pris avec lui des enfants, et sur ces enfants, il y avait 22 nationalités. Donc, ils ont voulu monter en épingle le caractère multinational et multiculturel de Londres. Nous sommes aujourd'hui en Occident dans une période où il y a une tension extrême entre ce qu'on pourrait appeler la solidarité et ce qu'on pourrait appeler la diversité. Comme ça s'est passé au Liban, c'est-à-dire jusqu'où une société peut continuer à accepter la solidarité entre tous ses membres, jusqu'à quel degré de diversité elle peut accepter ça. Et je pense qu'on arrive à un seuil de rupture en Occident, où la solidarité ne joue plus, et où, comme Duhamel le disait à l'instant, on risque de commencer à se fermer. Et effectivement, on n'a pas assez appris les leçons du Liban.
On peut se fermer dans un monde qui est tout de même aujourd'hui radicalement ouvert, à la fois d'un point de vue économique, mais du point de vue aussi des flux de personnes, même s'il y a de grandes zones qui sont des zones fermées. Mmh. Mais c'est un monde ouvert, le monde de la mondialisation.
Oui, aujourd'hui. Je pensais, enfin, quand je disais ouvert et fermé, je pensais sur le plan essentiellement moral. Mmh. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui nous éclaire sur le fait que ce qu'on a pris pendant longtemps pour de la tolérance de notre part n'était qu'en fait que de l'indifférence. On n'est pas aussi tolérant qu'on pense qu'on l'est. On est beaucoup plus indifférent à l'autre, aux marginaux, à tous ceux qui sont pas dans la norme sexuelle ou économique ou culturelle. Je pense aussi que ce qui se passe aujourd'hui nous éclaire sur le fait qu'on a très longtemps confondu la liberté avec le libertinisme. Et je pense surtout que si nous nous disons tous démocrates et que nous clamons haut et fort notre foi dans la démocratie, personne ne dit pourquoi on est démocrate. Ça sert à quoi d'être démocrate, finalement? Si c'est pour être démocrate, ça ne m'intéresse pas, moi. Je pense qu'on est arrivé à un point où nos mensonges nous rattrapent.
Bien vivre libre, vivre dans les conditions d'épanouissement personnel ou individuel, vivre protégé par un certain nombre de valeurs, défendre ces valeurs, voilà quelques oui. attitudes, Persikem, qui peuvent expliquer pourquoi on est démocrate ou pourquoi on aime vivre sous ces latitudes-là.
Oui, mais vous ne parlez que de vous. C'est-à-dire que on parle de droit, là. Mais je n'ai vu personne parler de responsabilité. Et pour moi, il n'y a pas de droit s'il n'y a pas des responsabilités en face. Et aujourd'hui, on voit de moins en moins les gens parler de leurs responsabilités. Et sans responsabilité, les droits deviennent des privilèges. Et je ne pense pas que ce soit très bien.
Comment prenez-vous le discours de Ken Livingstone, maire de Londres, qui dit, en dépit de ces attentats, Londres restera une ville ouverte. Londres continuera à susciter, pour toutes les valeurs qui sont les siennes, un fort désir, une attractivité. Venez, la ville est ouverte, venez. Les gens veulent être citoyens de Londres, londoniens. C'est un beau discours tout de même dans un moment pareil. Et on voit bien que là aussi, peut-être qu'on peut difficilement décrire des valeurs, mais on voit bien là ce qu'il veut dire. Il y a aussi un imaginaire de la démocratie.
Ça, c'est vrai. C'est vrai, et je mettrai le mot de Ken Livingstone en opposition au mot de Blair. Blair a eu des mots très politiques, et je pense que Livingstone a eu des mots très humains. Aujourd'hui, de même que Kennedy, jadis, avait dit « Je suis un Berlinois », on peut dire avec Ken Livingstone, nous sommes tous des Londoniens, et je pense qu'il a raison. Londres est effectivement la capitale du Royaume-Uni, mais Londres est beaucoup plus que ça, beaucoup plus que cela, de la même manière que Paris est beaucoup plus que la capitale de la France.
Marc Ravel.
Et on aurait pu le dire, a fortiori évidemment, de la ville de New York en septembre 1980. Oui. Je suis très sensible justement à ce tournant de la conversation sur ouverture et fermeture, et je partage tout à fait votre point de vue sur le fait que cette notion de fermeture, elle est d'abord dans les têtes, elle est pas dans les frontières, elle est pas dans les échanges réels, qui en effet font qu'il y a des modes d'ouverture qui sont aujourd'hui irréversibles. Il n'empêche, le mot terreur, pour en revenir, et on oublie tout de même que la terreur a été créée comme un instrument d'État par des gens qui disaient pas de liberté pour les ennemis de la liberté. C'est la Révolution française qui a pratiqué de la terreur d'État à des fins totalement délibérées et ouvertes pour dire si on conteste ce que nous sommes en train d'apporter au monde, c'est-à-dire la démocratie et la liberté, alors il faut frapper impitoyablement. Et donc c'est une leçon qu'on ne doit pas tout de même oublier, parce que dans ce que dit Percy Kemp, j'entends aussi que, au fond, au nom de valeurs qui sont incontestées, incontestables, la démocratie, on a même parlé de civilisation dans les réactions d'hier, ouais. Et donc cette liberté qui nous serait tellement chère, on peut faire passer des modes de loi, d'administration de la loi et de la répression totalement liberticides. La Patriot Act aux États-Unis aurait été inconcevable. Y compris chez la majorité républicaine du pays, sans les attentats du 11 septembre. Le Patriot Act étant, et d'ailleurs, est assumé comme tel, comme un moyen liberticide, parce qu'il y a des moments où, dit le pouvoir américain d'aujourd'hui, il faut sacrifier un certain nombre de libertés, y compris si elles nous sont très chères, quand il s'agit de lutter contre un ennemi qui est invisible, qui frappe où il veut, quand il veut. Et c'est sur cet aspect des choses que j'aimerais qu'on poursuive, parce que, en effet, il serait très dangereux de laisser l'idée qu'il y a une espèce de symétrie du terrorisme d'État versus le terrorisme al-qaïdien. Mais il n'empêche qu'à l'intérieur de ça, ça masque surtout, outre en effet des aspects dangereux, ça masque aussi une absence qui me semble assez tragique de réflexion sur ce qu'est et sur ce que vit ce terrorisme. Vous êtes bien placé, on revient rapidement au Liban, parce que le terrorisme au Liban et dans le Moyen-Orient, le terrorisme classique c'était quoi? C'était un terrorisme instrumental comme on en a toujours connu, disons notamment au fin du 19e ou 20e siècle, c'est-à-dire la fin justifie les moyens, mais il y a une fin. Après tout, le terrorisme palestinien, on va pas entrer dans ce débat-là, visait à libérer, avec guillemets ou sans guillemets, on s'en fout, la Palestine, ou une certaine idée de ce qu'il voulait. Là, on n'est pas du tout dans l'hypothèse de gens qui poursuivent un but. On est le but, c'est précisément, les moyens justifient les moyens, c'est-à-dire d'affirmer jusqu'au bout une puissance par rapport à des puissances qu'on frappe, en réalité, d'impuissance, parce que grosso modo, on ne fait rien, on ne peut rien. On peut faire la guerre en Afghanistan, on peut faire la guerre en Irak, mais grosso modo, on se retrouve avec des attentats de Londres. Qu'est-ce que ça vous inspire, Percy Kemp, cette espèce de dichotomie entre la dénonciation d'un mal, d'un danger, d'une menace, appelons comme on voudra, et en fait, cette très grande pauvreté des résultats obtenus.
Percy Kemp.
Je pense que quand on élabore une politique sécuritaire, contrairement à l'élaboration d'une politique sociale, on n'est pas vraiment tenu par les résultats. Quand un gouvernement élabore une politique sociale, quand arrive l'échéance électorale, si la politique sociale est un échec, ce gouvernement est remercié par l'électorat. Par contre, quand on élabore une politique sécuritaire, on n'a pas vraiment besoin de gagner pour se maintenir au pouvoir. Le simple fait que l'insécurité persiste peut encourager les électeurs à reconduire ce gouvernement. Donc j'estime que dans ce cas, la sécurité et l'insécurité constituent effectivement une stratégie de pouvoir. Dans un monde où les gouvernants n'ont pas grand-chose d'autre à offrir à leur peuple.
C'est-à-dire que la guerre contre le terrorisme, pour reprendre l'expression consacrée, est une structure politique ouverte et infinie.
Je pense qu'aujourd'hui, même si je dois sembler un peu cynique, il y a beaucoup plus de gens qui vivent du terrorisme qu'il n'y a de gens qui meurent ou qui sont victimes du terrorisme. Je ne parle pas seulement des militaires, des services de renseignement, des gouvernants, mais je parle aussi des experts, des journalistes, des avocats. C'est le terrorisme est une industrie aujourd'hui. La lutte contre le terrorisme est une industrie encore plus grande. Et c'est des stratégies de pouvoir dans un monde qui de plus en plus manque d'imagination et qui n'arrive pas à imaginer. L'un de vos collaborateurs ou de vos intervenants parlait récemment à l'instant même, il y a quelques instants, de réinventer la stratégie. C'est vrai qu'il faut réinventer la stratégie et il faut de l'imagination pour ça, mais malheureusement, de l'imagination, je n'en vois pas beaucoup.
Marc Cravette.
Qu'est-ce que pourrait être, en fait, est-ce qu'il faudrait, par exemple, rayer du vocabulaire le terrorisme avec un grand T et essayer de s'adresser à des ennemis un peu plus réels et un peu mieux ciblés?
Je ne pense pas. Je pense qu'il faut, je pense qu'il faut plutôt reconnaître le terroriste. Parce que tout le monde parle du terroriste aujourd'hui. Mais en fait, nous ne sommes plus dans une situation où nous faisons face à des terroristes. Vous l'avez dit à l'instant, nous sommes face à des anges vengeurs. C'est pas des gens qui, comme les Palestiniens dans les années 70 ou l'Irgun un peu plus tôt, avaient un but revendicatif. C'est des gens qui veulent détruire pour détruire. Pourquoi ? Pour se venger. Pour se venger d'un tort justifié ou non, mais néanmoins ressenti comme un tort. Nous avons, par notre guerre à outrance contre le terrorisme, en fait, complètement étouffé le terrorisme, et nous lui avons substitué l'ange vengeur, celui à qui on ne peut pas parler et qui ne veut plus nous parler. Parce que le terrorisme implique nécessairement un dialogue pour arriver à terminer ou à mettre fin à ce terrorisme. Genre type IRA ou en Irlande ou terrorisme basque. Mais le terrorisme dont on parle aujourd'hui, celui de Al-Qaïda ou ce qu'on appelle Al-Qaïda, ce n'est pas vraiment du terrorisme. Ce n'est pas du terrorisme, c'est des actes de vengeance, de rétribution divine. Et plus on répond à ces actes de vengeance par un acte de guerre, et plus on renforce cette tendance à l'extrémisme et au nihilisme chez ces gens-là.
Pour reprendre la formule de Marc Kravetz, quand la fin ne justifie plus les moyens, mais que les moyens justifient les moyens, on discute de quoi ?
On discute de
moyens.
On
reconnaît quoi ?
On discute de moyens, effectivement. Alexandre Adler, à l'instant, disait « Je note qu'ils n'ont plus les mêmes moyens qu'auparavant, en tout cas dans ce cas précis. » Les Américains font exactement de même. Si les Américains sont allés en Irak, ce n'est pas parce qu'il fallait y aller en Irak. C'est parce qu'ils pouvaient aller en Irak. S'ils ne sont pas allés en Corée du Nord, ce n'est pas parce qu'il ne faut pas aller en Corée du Nord, c'est parce qu'ils ne peuvent pas aller. De plus en plus, nous sommes mus par notre technologie. C'est elle qui détermine nos buts. Nous faisons pas ce que nous devons faire, mais ce que nous pouvons faire. Et malheureusement, effectivement, comme vous disiez, les moyens justifient les moyens.
Marc Kravetz.
D'ailleurs, je suis tout de même frappé que voir, même au plus haut niveau maintenant des états-majors américains, on dit de l'Irak, ce qui est tout de même un certain paradoxe. C'est une dictature épouvantable, c'est devenu aujourd'hui le terrain favori d'entraînement, de formation et de développement de tous les terrorismes possibles. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pour aller jusqu'au bout, là aussi ça pourrait paraître cynique de ce raisonnement, au fond, les Américains étaient à peu près inattaquables. Bon, d'accord, il y a eu la faille du 11 septembre, mais c'est une exception dans le sanctuaire, parce qu'en réalité, c'est quand même très difficile d'attaquer les États-Unis de l'intérieur, sauf que maintenant, on les a à disposition, si j'ose dire. Jamais, il y a eu bien plus de morts depuis la fin des opérations en Irak, donc depuis le mois d'avril 2003, qu'il y en a eu dans la phase guerrière, puisqu'on est arrivé aujourd'hui à 1700 morts et quelques dans les rangs américains, sans parler à peu près des 100 000 morts irakiens. Toute chose qui, où au fond, bien évidemment, ce n'est pas délibéré, mais on a tout de même l'impression que les États-Unis. Donc, je vais vous poser deux questions. La première, c'est pourquoi on en est arrivé et comment on en est arrivé. Puis la deuxième, c'est malgré tout le raisonnement. Alors aujourd'hui, qui a l'air un petit peu parole verbale, comme disait le Alfred Jarry, qui consiste à dire d'accord, on le paye très cher, mais là, à la fin, quand on aura réussi à diffuser à travers le modèle irakien, et peut-être même le modèle palestinien, voire le modèle libanais, puisqu'il y a eu des élections relativement libres au Liban, cette grande démocratie, ce grand Proche-Orient, Moyen-Orient, je ne sais plus comment on dit démocratique, là, on aura probablement gagné une bataille décisive. Donc, première question, on est en train de se tirer une balle dans le pied, parce que ce qui se passe en Irak est plutôt à l'inverse de ce qui était envisagé. Deuxième question, d'accord, mais c'est le prix à payer pour un projet dont la réussite sera, quel qu'en soit le temps, sera et garanti, et à ce moment-là, on aura gagné une bataille décisive.
Merci, Kemp.
Je pense que tout cela tient d'un quiproquo. Le quiproquo qui veut que les intérêts de la société civile soient les mêmes que ceux de l'État qui la représente. Je ne pense pas que ce soit toujours le cas. Ce qui est clair, c'est que, dans le cas irakien, les intérêts de la société civile et ceux de l'État ne coïncident pas. Or, ce dont on nous parle aujourd'hui, c'est d'une victoire ultime que le pouvoir, que l'appareil d'État, dont le pouvoir d'État n'a pas besoin. Lui, ce dont il a besoin, c'est de la dynamique. Ce n'est pas d'arriver au bout des choses. Et je pense que... c'est une situation C'est-à-dire qu'on est floué. On est floué. La société civile est flouée par ses élites dans la politique.
Je citais ce titre tout à l'heure d'un livre de Bernard Lewis, le spécialiste de l'islam. Qu'est-ce qui est allé de travers? What went wrong? C'est la question qu'il pose après la chute du mur de Berlin, où la démocratie était l'horizon enfin réalisé, ou en tout cas, on pouvait en approcher. Qu'est-ce qui est allé de travers, d'après vous?
Vous voulez dire du côté occidental ou du côté musulman?
Ah, il y a du... On pourrait spécifier, mais il y a du travail, hein.
Je pense que du côté arabe, ce qui est allé de travers, c'est quelque chose qui a toujours été de travers. Et qui est que les Arabes n'ont pas développé une théorie de la défaite. Je crois que c'est Carl Schmitt qui disait « La guerre n'est pas une épreuve de force, c'est une épreuve de volonté, née des faits que celui qui se reconnaît tel. » Et j'estime que les Arabes n'ont pas développé une théorie de la défaite qui leur permette de dire « Bon, on a perdu cette guerre, on va reconstruire en tirant les enseignements de cette guerre. » Ce qui fait que nous nous retrouvons systématiquement avec de nouvelles personnes qui viennent pour continuer à se battre à nouveau.
Merci Percy Kempf d'avoir été notre invité ce matin. À la rentrée sortira l'un de vos nouveaux romans. Et le coucou dans l'arbre se rit de l'époux, publié chez Albin Michel sur le site internet de France Culture. On indiquera à la fois les titres de vos précédents romans d'espionnage et aussi le lien vers le site de la revue Esprit qui permet d'avoir une bibliographie complète de vos interventions dans cette publication. Merci d'avoir été
Merci, en tout cas,
ce matin. Il est 8h55, Marc Kravetz, pour le dernier portrait de la semaine, on retrouve Judith Miller, journaliste emprisonnée.
Eh oui, on va ajouter un peu de complexité au débat. Et une journaliste en prison, le fait est plutôt rare, il est même exceptionnel, du moins sur nos climats, et plus encore aux États-Unis où la liberté de la presse est inscrite et pratiquée en lettres de feu comme garante de la démocratie et du droit de savoir des citoyens. Alors l'histoire de Judith Miller, elle est largement connue, elle a fait le tour du monde, on l'a évoqué, Hervé Gardet l'évoquait hier, mais donc à ce micro. Et le cas a quelque chose d'exemplaire, et mérite qu'on y revienne, parce que il y a eu beaucoup de simplification, voire de simplisme autour de ça. Judith Miller, donc journaliste de renom et de poids, titulaire du prix Pulitzer, avec une trentaine d'années d'ancienneté au sein du très prestigieux New York Times, a donc été emprisonné mercredi matin à New York pour avoir refusé de révéler ses sources en dépit d'un ordre réitéré d'un procureur fédéral. Alors l'enjeu est important, il faut tout de même résumer l'origine de l'affaire. En juillet 2003, Joseph Wilson, ancien ambassadeur des États-Unis, dans une libre opinion publiée justement par le New York Times, accuse l'administration Bush d'avoir manipulé les rapports de ses services sur les armes de destruction massive de Saddam Hussein, et en particulier sur sa volonté, ou plus exactement ses moyens, de bâtir un arsenal nucléaire afin de justifier sa guerre contre l'Irak. Une semaine plus tard, un éditorialiste indépendant du nom de Robert Novak révèle que la femme de Joseph Wilson, Valérie Plame, travaille pour la CIA et plus précisément sur le sujet des armes de destruction massive, et ce serait elle qui aurait donné à son mari les moyens de critiquer l'administration sur ce sujet capital, manière, on l'aura compris, de décrédibiliser les arguments de son mari, de Joseph Wilson. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, une loi de 1982 interdit sous peine de prison d'identifier un agent opérationnel des services de renseignement. Une enquête est donc ouverte pour savoir qui a livré le nom et la fonction de Valérie Plame. Un procureur spécial, Patrick Fitzgerald, en est chargé. Outre Robert Novak, qui semble-t-il n'a jamais été poursuivi, c'est l'un des mystères de l'affaire, d'autres journalistes auraient bénéficié de cette fuite, dont on s'accorde à penser qu'elle vient de l'entourage proche du président Bush. Alors ici, et pour ne pas abuser du temps imparti, je vais vous épargner les détails pour en venir à l'essentiel. Des journalistes concernés par l'affaire, seuls deux seront finalement l'objet de toutes les attentions du procureur Fitzgerald, Matt Cooper de Time Magazine et Judith Miller du New York Times. Sommé de révéler là où les sources de la fuite, ce que l'un et l'autre refusent avec le soutien de leur entreprise respective, le temps passe, les procédures s'accumulent et s'épuisent, les deux journalistes sont condamnés à 18 mois de prison, la condamnation est définitive dès lors que la Cour suprême a refusé de la prendre en charge. Mercredi donc, ultime audience du tribunal new-yorkais, où les journalistes se plient aux ordres, où ils vont en prison. Entre-temps, ici encore je simplifie, Matt Cooper, qui avant de partir pour le tribunal a embrassé ses enfants en leur disant « Ce soir, papa dormira en prison », en fait, est libéré de sa parole par ses sources qui disent « Vous pouvez tout dire, je vous passe les détails », il est dispensé de sa peine. Judith Miller, en revanche, toujours elle avec le soutien du New York Times, s'en tient à une position de principe, accepter d'identifier une source, c'est finalement accepter de renoncer à la possibilité pour la presse de révéler des éventuelles malfaisances du pouvoir. Donc, au nom de ces principes, garantis par le premier amendement de la Constitution, elle tient bon et volontairement, d'une certaine façon, elle, encadrée par les US Marshals, donc l'équivalent de nos gendarmes, les shérifs, elle va dans sa cellule où elle passera un minimum de 4 mois, le temps que le grand jury délibère. Alors, il s'agit bien d'une position de principe, parce que tout indique en fait que le procureur fédéral sait tout à fait à quoi s'en tenir sur les fameuses sources et entend simplement, de même que le tribunal, à ce qu'une journaliste ne puisse prétendre, fût-ce au nom du premier amendement, de dire « je suis au-dessus des lois ». Alors, deuxième paradoxe de l'histoire, Judith Miller n'a jamais écrit d'article sur le sujet. Elle est supposée avoir une conversation avec un haut fonctionnaire, on ne sait d'ailleurs pas exactement pourquoi elle est poursuivie, peut-être parce que le procureur Fitzgerald voudrait, alors représentant le pouvoir, se venger du fait que c'est là que Joseph Wilson a écrit dans cette tribune dévastatrice sur les arguments qui ont justifié l'entrée en guerre des États-Unis en Irak. Alors, Judith Miller, c'est une carrière prestigieuse, vous la connaissez probablement d'ailleurs, Percy Kemp, parce qu'elle était très longtemps à Beyrouth, elle était à Amman, elle était la chef du bureau du New York Times au Caire. Elle a eu de nombreuses responsabilités au sein de son journal. Mais en même temps, ses confrères ne sont pas tellement laudateurs à son égard. On rappelle que Judith Miller a souvent utilisé des sources uniques pour faire des articles canons, notamment pour justifier le fait que Saddam Hussein possédait ses armes de destruction massive grâce aux informations, d'ailleurs fournies par un interlocuteur unique, qui était Ahmad Chalabi, qui à un moment était le favori des Américains parmi l'opposition irakienne, et qui a grossièrement menti et escroqué, pour des raisons d'ailleurs essentiellement monétaires, et dont Judith Miller a été, plus exactement, le New York Times a publié une note à ses lecteurs disant qu'on avait en effet été assez peu critique à l'égard de cela, et donc toute la presse américaine a multiplié les autocritiques pour dire, en gros, par esprit patriotique, on a accepté des choses qu'on n'aurait pas dû accepter, on n'a pas examiné exactement les preuves de cette entrée en guerre. Alors, autre paradoxe de cette histoire, c'est que Judith Miller est pour de bon en prison. Valérie Plame, qui est la vraie victime de cette affaire, n'est défendue par personne. Alors, on lui a brisé sa carrière, on a décrédibilisé son mari, elle n'a plus rien pour se défendre, et d'une certaine façon, c'est vrai qu'il faut se battre pour ce principe, la protection des sources, pour que la presse fasse son travail. Mais d'un autre côté, le vrai procès, la vraie enquête, celle que et qui est derrière tout ça, c'est oui ou non, est-ce pour de bonnes raisons que les États-Unis sont entrés en guerre en Irak? Eh bien là, la question, tout simplement, ne sera pas posée.
Merci Marc, il est 9h. Retour de l'information, le journal Hervé Gardette.
52 morts, environ 700 blessés, c'est le dernier bilan des attentats de Londres selon John Howard, le Premier ministre australien. Mais la police britannique, elle reste pour l'instant sur le chiffre de 37 personnes tuées par les 4 bombes qui ont explosé hier matin dans la capitale anglaise, 3 dans le métro, une dans un bus. Et depuis hier, la mobilisation est totale dans les hôpitaux londoniens. C'est un reportage de Nathalie Borus.
Toute la matinée d'hier, il a aidé les médecins à recevoir des blessés.